France Inter.
Journal d'Evan Le Bastard. Bonjour Evan.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Motivés, les opposants à la réforme des retraites continuent de mobiliser tout le week-end avec des tracts et des meetings. Illustration à Montargis. Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe progresse, mais fait étonnant, ça n'empêche pas l'immobilier d'être très prisé. Notre reportage au Donbass dans ce journal. Le Paris-Nice aura des allures de Tour de France cette année. Beaucoup des meilleurs coureurs du monde sont présents. La course s'élance aujourd'hui.
Un mot sur notre invité à 8h20 ce matin, ce sera l'épidémiologiste Jean-David Zetoun pour son livre Le suicide de l'espèce. Eux, ils occupent le terrain avant la grande mobilisation de mardi.
Les syndicats multiplient les opérations de tractage tout le week-end avec un mot d'ordre, mettre la France à l'arrêt. Les élus de gauche se mobilisent aussi. À Montargis, dans le Loiret, la NUPES a tenu une réunion publique avec notamment Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts ou encore la socialiste Laurence Rossignol. C'était hier et les militants étaient très motivés, Margot Kefelec.
Parmi eux, Micheline, honorée de voir des figures nationales de la gauche dans sa commune.
Nous, on est des gens très dynamiques, politiquement, surtout qu'à Montargis, ça y va. Hein
ouais.
On est des milliers de personnes.
Plus de 3000, précisément, au plus fort des mobilisations. Cette militante historique du Parti communiste en était, évidemment.
Moi, je manifeste tout le temps parce que j'ai 5 petites filles. Il faudrait même qu'elles soient beaucoup plus impliquées. Quand on regarde ici, je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeunes.
Ah bah attends, justement, il y en a quelques-uns là-haut, là.
Peut-être qu'il y a peut-être une peur à s'insérer dans un parti politique. On sait pas trop ce que c'est, notamment au lycée.
Grégoire, élève en terminale.
Par exemple, mes amis qui ne savent pas trop comment ça sert en politique, par quoi commencer, comment le faire. Et je pense que des venues comme celle-là avec Julien Bayou, ça pourrait les intéresser ou néanmoins faire une porte d'entrée.
Le député écologiste Julien Bayou qui ne cache pas les motivations de cette réunion publique.
On veut faire le plein pour notamment motiver en vue du 7 mars. Il faut que ça soit une date historique. On a fait l'Assemblée, on a fait le Sénat, mais surtout maintenant le rendez-vous c'est dans la rue.
Et dans l'assistance, tout le monde l'affirme, ils seront dans la rue mardi. La traditionnelle chanson de manif, motivé, motivé, et les slogans résonnent déjà dans la salle.
On en a enregistré, je sais pas. Le reportage de Margot Kefelec de France Bleu Orléans. Au Sénat, c'est une nouvelle journée d'examen de la réforme des retraites qui commence. Hier, l'article 1er a été adopté, celui qui supprime les régimes spéciaux, notamment pour la RATP ou les électriciens et gaziers. L'examen du texte se poursuit aujourd'hui.
En Ukraine, l'armée russe continue de progresser à Bakhmout.
La pression s'intensifie sur cette ville de l'est du pays. Selon l'armée ukrainienne, à Bakhmout, la situation est sous contrôle. Mais l'offensive russe pousse les civils à évacuer la région. Alors comment se porte le marché de l'immobilier dans le Donbass? La question peut paraître absurde et pourtant les appartements dans la région s'arrachent à la location. Encore plus avec cette nouvelle offensive russe, Maureen Mercier.
À Pokrovsk, la ligne de front est à une trentaine de kilomètres à peine. Antonina ferme son petit bureau avant la nuit après une journée bien remplie. Antonina, la trentaine, est agente immobilière.
La moitié au moins des habitants ont fui la ville et beaucoup cherchent à vendre leur maison. Les rares qui y parviennent doivent la céder pour la moitié de ce qu'elle valait avant la guerre.
Personne ne veut s'établir dans ces villes menacées par les Russes. Et pourtant, il y a un marché qui flambe, celui de la location.
90% des appartements qu'on met à la location sont loués par des militaires désormais.
Conséquence, les civils qui n'ont pas fui s'y retrouvent plus en péril.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Certains habitants transmettent aux Russes les coordonnées des immeubles où logent de nombreux soldats ukrainiens. L'armée russe frappe toujours là où il y a une forte densité de soldats. Les gens qui font cela ne sont pas forcément pro-russes, mais sont des gens qui ont besoin d'argent.
Ce matin-là, un immeuble a été touché à Pokrovsk. Comme à chaque frappe, seul le nombre de victimes civiles sera communiqué par les autorités.
Un traité international de protection de la haute mer a été signé cette nuit. Les membres de l'ONU se sont mis d'accord après 4 ans de négociations. Ce traité doit permettre de mieux protéger les écosystèmes au large des océans.
Le Liban, qui s'enfonce toujours un peu plus dans la crise.
Un signe supplémentaire de cette situation catastrophique, le gouvernement autorise désormais les supermarchés à afficher les prix en dollars parce que la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur depuis 2019. La monnaie nationale n'est donc presque plus utilisée par les commerçants. Noé Pignade l'a constaté à Beyrouth.
Dans ce grand supermarché de l'est de Beyrouth, Marie-Thérèse, 76 ans, découvre le nouvel étiquetage des prix en dollars américains.
On est perdu.
Il faut une calculatrice.
Avec son téléphone, elle convertit le prix de chaque boîte de conserve avant de les déposer dans son panier.
On prend boîte par boîte.
Car si les tarifs sont désormais affichés en dollars, cette grand-mère n'a que des livres libanais pour payer ses courses. Depuis la crise, son niveau de vie a dégringolé.
J'ai travaillé toute ma vie, moi et mon mari, mais on n'a pas de retraite.
Au Liban, 90% des produits sont importés. Jusqu'ici, ils étaient donc achetés en dollars par les fournisseurs avant d'être revendus en livres libanais aux clients. Mais après 3 ans de chute libre, la monnaie nationale ne vaut plus rien. Alors pour Karim, 50 ans, afficher les prix en dollars, c'est du bon sens.
C'est beaucoup plus simple. Notre économie est dollarisée. C'est les vrais prix qui sont affichés. Parce qu'on importe tout, finalement. Le pays ne produit rien.
Mais pour Serena, la trentaine, le compte n'y est pas.
Nos salaires ne suivent pas l'inflation. Donc c'est injuste. Remplir le frigo est devenu très cher. On achète juste le nécessaire, le minimum pour survivre.
Tant que les salaires des Libanais ne seront pas payés en dollars, leur pouvoir d'achat va continuer de s'effondrer. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Beyrouth, Noé Pignette, France Inter.
Voilà maintenant un projet de loi qui fait moins parler que la réforme des retraites.
La nouvelle loi asile et immigration portée par le gouvernement soulève pourtant aussi la contestation. Hier, des rassemblements pour s'opposer au texte ont eu lieu à Paris, Nantes, Perpignan ou Bordeaux. À Nancy, ils étaient une centaine de personnes, Doris Henry.
C'est un projet de loi beaucoup trop restrictif et stigmatisant, selon Isabelle Kaufmann, membre de la CIMAD, qui défend les migrants à Nancy.
C'est une sorte de chasse à l'homme permanente, alors que nous, à la CIMAD, on dit « mais prenons le problème dans l'autre sens, décidons que c'est une chance pour nos sociétés d'accueillir ». Dans la loi, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, c'est-à-dire la question de l'asile va être durcie aussi, puisque la CNDA, qui est l'instance de recours, la Cour nationale du droit d'asile, elle va être limitée en nombre de juges. Avant, il y avait 3 juges, on dit « il n'y aura plus qu'un juge ».
Même si ce texte propose de simplifier la délivrance de titres de séjour pour les sans-papiers employés dans les secteurs en tension, selon Brigitte Janot, avocate à Nancy, les expulsions et reconduites à la frontière seraient facilitées.
L'idée qui sous-tend cette loi, c'est le fait de rendre l'immigration jetable. C'est-à-dire que, eh bien voilà, on a besoin de vous 6 mois, eh bien vous pouvez travailler 6 mois, le métier n'est plus en tension, on refuse le renouvellement du titre de séjour.
Et contre cette immigration jetable, Arlette soutient le mouvement.
La situation des migrants est particulièrement lamentable. On les considère comme une sous-humanité. On les expulse, on les enferme. Et donc, ils ont droit à être respectés comme n'importe quel être humain.
Selon la CIMAD, plus de 400 000 femmes, hommes et enfants vivraient sans papier en France. L'association réclame leur régularisation.
Doris Henry de France Bleu Sud-Lorraine. 2 corps ont été retrouvés en Charente-Maritime dans le cadre des recherches de Leslie et Kevin, 22 ans et 21 ans. Ils avaient disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. L'identité des corps n'a pas encore été confirmée formellement, précise le procureur de la République de Poitiers. Ils seront autopsiés dans la journée.
Les sports, Evan, avec le départ aujourd'hui de la 81e édition du Paris-Nice.
Le départ de la Verrière dans les Yvelines, avec un plateau très relevé cette année. Le vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard, et son dauphin, Tadej Pogacar, notamment. La course a tout d'une grande répétition à 4 mois du prochain Tour de France, admet l'organisateur Christian Prudhomme.
Paris-Nice est d'une certaine manière toujours un petit Tour de France. C'est-à-dire que Paris-Nice donne des indications très fortes sur la suite de la saison. Parfois, le vainqueur de Paris-Nice gagne ensuite le Tour de France. Ça a été vrai avec Wiggins, ça a été vrai avec Geraint Thomas, ça a été vrai avec Bernal. Mais parfois aussi, même quand il n'y a pas le vainqueur du Tour, on a des éléments que l'on retrouve au mois de juillet. Qui a permis à Roglic, le dernier jour, de gagner Paris-Nice l'an passé? C'est Wout van Aert qui a été omniprésent sur les routes du Tour de France ensuite. Donc il y a vraiment de fortes indications. Et oui, Paris-Nice ressemblera peut-être encore plus au Tour de France cette année que les précédentes, en raison de ses arrivées en altitude et en raison de ce chrono par équipe qui va donner une photographie très précise des forces en présence.
Départ de Paris-Nice à 12h45 cet après-midi, arrivée prévue vers 17h. Les spécialistes promettaient l'un des plus grands combats de l'histoire du sport français. En MMA, ça a duré moins de 2 minutes. Très décevant, le Rochelais Cyril Gane a perdu contre l'Américain John Jones pour la ceinture poids lourd de l'UFC à Las Vegas. Le sport a été légalisé en France il y a seulement 3 ans.
C'était le journal d'Evan Lebastard.